résultat. FM 93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
Bon, ça me tentait un matin, vu que... Tu sais, on aurait pu continuer encore pendant des heures et des heures, mais c'est pas mon genre, là, se réjouir, parce que c'est une victoire vraiment impressionnante après des années, des années, des années de combat pour le troisième lien. Alors là, l'argent est là, c'est le budget du troisième lien. Là, je sais, si vous lisez les journaux à Québec, c'est pas présenté de même, parce que les journaux, vous savez, ils sont... Je ne veux pas être méchant, mais ils sont pro-la bombe, pro-tramway, anti-troisième lien. Il n'y a personne qui a titré à Québec un matin « Le troisième lien, c'est fait, l'argent est là, victoire totale ». Personne. C'est normal, ça ne se passe pas dans leur gène, ils ne sont pas là-dedans, ils sont dans d'autres combats. Je ne suis même pas fruit de ça. Mais il fallait quand même le dire un matin, que quelqu'un le dise. Là, on a gagné. Mais je ne le ferai pas pendant quatre heures de temps, ça fait arrogant. Donc, j'ai le goût de... On l'a fait cette semaine, merci, on a eu de très bonnes réactions. Et pourquoi pas en faire deux dans une semaine, il n'y a pas de quota. On a parti de quoi? Vous avez été nombreux à réagir et à nous suggérer des noms. Ça s'appelle « On prend un verre avec ». On sort du studio de radio, on s'en va à l'atelier à l'Ophélia sur Grande Allée, on s'installe avec quelqu'un, suggéré souvent par les auditeurs, quelqu'un avec qui, tu sais l'expression « je prendrai un verre avec ». J'osais pas comme on fait souvent à la radio du dossier du jour, de l'actualité ou tout, mais plus large là, que ça. Là. Bon, on a commencé avec Claude Poirier. Elisabeth est allée le rencontrer, ça a été, regarde, allez réécouter sur le podcast si vous l'avez manqué. Là. Honnêtement, là, plein d'anecdotes, plein de jugements, des fois un peu controversés, mais il s'est vraiment laissé aller.
Oui, vraiment. Il n'y a pas de filtre à la base, Claude Poirier, puis il n'avait encore moins.
Comme pas de radio, tu n'es pas dans un studio. Tu sais, il nous a conté que c'est Lino Zambito qui a donné son rendez-vous qu'un cardiologue en passant par des contacts, puis
ça,
qui se promenait qu'un gun avant, qui a été menacé, sa fille. Comment Mom Boucher y envoyait des messages secrets, regarde.
Ce qu'il pense des policiers.
C'est spécial. Là, ça va être là. Claude Poirier, c'était à Montréal, OK? Puis s'il faut aller à Montréal, on ira, mais on va privilégier, évidemment, la majorité, ça va être du monde de Québec, vous allez voir. Et parmi les gens de Québec, avec qui moi, j'aimerais ça prendre un verre à un moment donné, jaser de tout et de rien, il y a,
Michel Laplante.
Oui.
Qui est une des personnalités les plus en vue de la région de Québec, qu'on connaît surtout aujourd'hui comme président et copropriétaire des Capitales.
Oui.
Il a été joueur des Capitales. Il a été gérant des Capitales.
Il a joué dans le baseball professionnel avant aussi.
Il a joué dans le baseball
là.
Professionnel avant, effectivement.
À du très haut calibre.
Oui. Il a été directeur gérant des Capitales. Il est entrepreneur. C'est lui qui a eu l'idée de fonder une entreprise qui fabrique des bâtons de baseball à Québec, B45.
Dont des joueurs de la Ligue nationale utilisent.
J'ai vu un bâton B45 au Temple de la Renommée à Cooperstown.
Ah ouais?
Oui.
Et c'est aussi, ça fait partie de sa vie qui a été impliquée dans un accident tragique.
Absolument.
Le genre d'affaire que personne ou deux de ses amis, vous savez, dont le chanteur Bob Bissonnette, sont décédés, écrasement d'hélicoptère, et où lui survit. Ouais. Là.
Absolument.
C'est circonstance tragique.
Donc, on est allé s'asseoir à l'atelier pour placoter de plein d'affaires. J'avais deux pages de questions. Finalement, je pense que je les ai même pas regardées. Mais tu sais, Michel, je le connais, ça fait des années que je le connais. Ça fait que je savais pas mal où aller, dans quelle direction tirer. On a parlé, comme mise en bouche, on a parlé un petit peu du style de gestion des capitales, qui est un peu particulier. Tu sais, tout le monde est impliqué dans tout. Là. Il n'y a pas un gars au marketing, puis il fait juste du marketing, puis l'autre, il vend des billets, puis il vend juste des billets. Tout le monde touche à tout.
Ah ouais?
Même quand on déroule la toile sur l'avant-champ, quand il pleut, là, le président, il descend sur le terrain, il met ses bottes, puis il déroule la toile.
Ah ouais?
Tout le monde aide.
Je savais pas ça.
Tout le monde aide.
C'est vraiment une gestion.
Celui
là.
Qui déchire les billets à la porte de la terrasse ou à la porte d'entrée au stade, mais lui aussi va être sur le terrain.
Il n'y a pas de cloison. C'est l'expression, c'est dans des bureaux, c'est très cloisonné des silos. Toi, tu fais ça, tout le monde participe un peu.
C'est ça.
Alors, ça crée un esprit d'équipe.
On connaît Michel donc comme joueur, entraîneur, gestionnaire, entrepreneur, administrateur. C'est un gars qui s'intéresse à tout. Puis, il n'a jamais peur de sortir de sa zone de confort. Il se dit très chanceux d'avoir une épouse puis une famille qui est toujours prête à l'appuyer dans ses projets. Ça tire partout, lui, là, dans son cas. Je lui ai demandé d'où ça vient, ce goût-là d'essayer plein d'affaires.
À 14, 15, 16, 17 ans, j'ai un certain talent dans le sport et il n'est pas exploité. Donc, je faisais beaucoup de cirque quand j'étais jeune. Tu joues au tennis avec les gens, tu fais du sport, puis ils disent « Hey, t'es habile. » Puis là, t'arrives à 17-18 ans, et le commentaire était « C'est-tu dommage que tu t'es pas concentré sur un sport, parce que je suis sûr que t'aurais pu faire un sport professionnel un jour. » C'est ce qu'on me disait à 17-18 ans. Et suite à ma première année que je joue au baseball, alors j'ai 18-19 ans, dans une ligue à Val-d'Or, on est trois équipes. Il y a un monsieur qui s'occupait de tout le baseball, puis qui me dit, Michel, ça n'a pas d'allure. Tu as sûrement un potentiel au baseball. Pourquoi tu ne vas pas faire un camp junior majeur à Saint-Eustache? Il va avoir lieu le 15 septembre. Il me semble que tu devrais essayer. Et là, ça a fait, sais-tu quoi? Là, j'ai une opportunité, là. Je ne la manquerai pas. Et toujours été très, très timide. Pas game 2. Et on dirait que cette peur-là que j'ai eue de dire je suis confiné à rester au même endroit. Puis, écoute, je ne parle pas contre l'Abitibi, c'est pas ça que je veux dire. Mais depuis ce temps-là, là, c'est ouvert, pas gêné d'essayer quelque chose. Puis le fou du village, je l'ai été à peu près 5 fois dans les 20 dernières années. Donc d'arriver avec un bâton en bouleau jaune, en merisier. Les ébénistes, ils m'ont presque tous dit ça fonctionnera pas, un bâton c'est fait en érable, c'est fait en fin. Le baseball survivra pas à Québec. Tu regarderas les Indiens, les carnavals, ça a duré 5 ans, ça survivra pas. Après ça, l'histoire du synthétique du Dôme, ça a été un gros vent de face où ce que les gens disaient non, ça fonctionnera pas pour telle affaire.
Et alors, toi, il s'agit de te dire quelque chose qui se peut pas pour que tu t'acharnes à prouver le contraire.
Je ne sais pas si c'est ça ou si quand la petite boule là, puis le feeling ici te dit que me semble qu'il y a quelque chose là, je l'étouffe plus. J'y vais puis je l'essaye. Okay. Puis,
quitte à ce que ça marche pas.
Puis si ça marche pas, ça marchera pas. Mais écoute, je sais pas combien de temps la vie va être tout ça, mais je mourrai pas avec 5 boules dans mon estomac qui font que j'aurais donc vu.
Très 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 bon. J'adore l'expression. J'ai été le fou du village une couple de fois, mais j'ai réussi. Que ça soit que sa compagnie de bâtons de baseball ou le dôme des capitales.
C'est lui qui a amené ça.
Deux petites citations rapides. Il y en a une qui est célèbre à propos des révolutionnaires russes. T'as un autre contexte, mais j'aime la phrase. Ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible.
Oui.
L'autre, vous lirez la plaque quand vous irez visiter l'Empire State Building. Le promoteur, quand il a fait ça, s'est fait traiter de fou du village. Seuls les projets irréalistes finissent par se réaliser.
Ah, oh, c'est bon.
C'est très bon.
En voulant dire que ça mobilise. Quand tu rêves, ça prend quoi un peu, là? C'est sûr que c'est pas du succès tout le temps. Ouais. Puis Michel n'a pas eu tout du succès dans ses affaires. Exact. Mais il fonce.
Et ça m'amène à mon prochain extrait. C'est lui qui a mis sur pied, qui a eu l'idée de mettre sur pied le programme avec Cuba, qui permet à des jeunes de la région de Québec d'aller passer une semaine à Cuba, puis d'apprendre le baseball avec des coachs cubains en espagnol, de les sortir de leur zone de confort et d'amener aussi, en même temps, des joueurs cubains ici à Québec avec les Capitales, avec maintenant avec les Aigles de Trois-Rivières, d'amener à Québec et dans la Ligue CANAM l'équipe nationale cubaine pour des séries de matchs. Il s'était fait dire que ça ne marcherait pas. Il a envoyé un document aux autorités cubaines. Il y a eu une réponse. Venez nous voir dans 3 jours. On va vous recevoir. Il est parti avec Josué Pelé qui joue avec les Capitales, qui est un joueur d'origine espagnole, latino. Et il est allé rencontrer les autorités cubaines, puis il nous raconte comment il a réussi à les convaincre.
Et les gens m'avaient dit, Michel, ton meeting va durer 4 minutes, puis tu vas te faire mettre dehors. Et comme défaite, je suis rentré dans le meeting, puis là, il y avait le ministre du tourisme, des affaires étrangères, il y avait il était 8, puis on était 2. Non, on était 3, parce qu'il y avait la personne qui nous avait lié là-dedans. Et c'était très froid, fait que Et là, je leur ai raconté mon histoire des Jeux panaméricains à Cuba, parce qu'il est arrivé une anecdote assez drôle où l'équipe canadienne avait joué au Grand Parc à La Havane contre l'équipe nationale mexicaine, puis ça a fini en bagarre générale.
Okay.
Et j'ai raconté que moi, mon séjour à Cuba, c'est une bagarre générale. Et ils ont tous parti à rire, et il y en a 2 autour de la table qui ont levé la main, puis ils disent, on se souvient de ce match-là, avait fallu prendre la décision de vous bannir ou pas du tournoi. J'ai dit, vous nous avez bannis. Il dit, oui, ça, c'est moi qui ai fait ça. Ben, j'ai dit, à cause de ça, je suis allé aux Olympiques à Barcelone l'année d'après. Puis là, le fou rire a pogné. Et là, le meeting a duré 2 heures. Et l'argument de tout ça, c'était, et pourquoi pas amener des jeunes joueurs de baseball chez vous, vivre des cliniques en espagnol avec vos entraîneurs pendant une semaine? Et là, surtout, le ministre du tourisme, il a été très, très, très intrigué par ça. Et là, ils ont dit, OK. Puis là, tu parles dans ta feuille d'avoir un joueur cubain qui irait jouer pour toi. Ils ont dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, imagine le lien qu'on pourrait créer si un joueur qui vient jouer, puis après ça, lui, il est connu à Québec, puis on amène des jeunes jouer, puis lui, il est coach avec d'autres coachs cubains. Puis là, ils m'ont regardé, ils ont dit, il y a un embargo depuis 1960, t'es-tu au courant? J'ai dit, oui, je suis au courant. Ils ont dit, comment tu penses qu'on va faire ça? Ben, j'ai dit, j'ai parlé au gouvernement américain avant de venir en rencontre ici. Et si l'employeur est canadien, il aurait le droit de venir aux États-Unis.
Ah, c'est comme ça qu'il a contourné l'embargo.
Ouais.
Parce qu'on fait, a effectivement un embargo
peux,
sur Cuba.
Tu peux ajouter diplomate ou spécialiste en relations internationales à son comme une autre corde à son arc.
Mais il y avait déjà un as dans sa manche quand il est allé.
Ouais. Oui, oui, non, mais il a fait ses devoirs.
Il a fait ses devoirs.
Okay. C'est sûr. On lui a parlé de dopage. Dans le baseball, il y a du dopage.
Ben, avec Éric Gagné.
Quand
tu es
dans le baseball mineur en plus, ton but, c'est de passer par-dessus l'autre pour être rappelé puis monter vers le baseball majeur.
Il y a de l'argent en jeu, là.
Ben, absolument.
On parle de contrat de 400 millions au baseball, là, c'est-à-dire.
Alors que dans les ligues mineures, quand tu fais 2 000 $ par mois, c'est un gros salaire. Je lui ai demandé s'il avait la conviction d'avoir tout fait pour se rendre dans les majeurs. Il m'a dit non. Mais qui avait aucun regret. Il s'est entraîné sérieusement, mais il n'était pas assez maniaque pour se concentrer sur un seul sport. Et il n'a jamais été proche de tomber dans le piège du dopage.
Pas du tout. Puis, tu sais, j'ai eu ces débats-là avec des joueurs. On les a eus, surtout en 2000, parce que dans mes années 94, 95, 96, c'était tabou. Donc, assez innocent pour même pas penser qu'il y en a qui en prennent. Et là, je vais jouer en Chine un an, je vais jouer du baseball indépendant, puis je reviens avec les expos. Et là, c'est un livre ouvert. Le joueur, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis sur un cycle. Un cycle de... Hey, voyons, t'es-tu sonné, toi? Je suis sur un cycle de telle affaire. Puis le réussir à tout prix, il n'a jamais été dans mon... Non, parce que je le faisais pas dans cette intention-là. Puis de toute façon, je pense que tous ceux qui ont tenté de réussir à tout prix en prenant du dopage, ils le regrettent tout aujourd'hui. Puis je pense que l'argent dans tout ça a beaucoup à voir. Puis tu dois te poser les questions pour quelle raison tu fais ça. Si tu le fais vraiment pour le dépassement de soi, puis d'amener ton corps le plus loin que tu peux amener dans le naturel, tu le feras pas. Mm. Mais si tu souhaites avoir la Ferrari que ton chum y a parce qu'il est monté dans les majeures, puis la maison, puis le ci, puis le ça, je pense que t'es pas à bonne place. Ben, t'es pas à bonne place. Je pense qu'il y a plein de gens qui voient ça comme ça, puis ils finissent par réussir. Mm-hmm. Mais... c'est impossible qu'à long terme, quand ils tombent dans quarantaine, cinquantaine, soixantaine, ils soient fiers d'eux autres. À moins, puis là, j'ai une bémol dans tout ça, où ce que je pardonne certaines personnes que j'ai vues. Puis tu sais, c'est le seul cas que je fais « ouais ». Un gars qui sort de la République dominicaine, que ses parents ont jamais eu une maison, qu'ils ont partagé tous les souliers, que les sœurs qui ont encore 12, 13, 14 ans en pas d'éducation, et lui, il voit le baseball comme une porte de sortie, puis si jamais il signe un contrat de 5 millions, il va pouvoir nourrir tout le monde. Celui-là, il me fait plier les genoux. Puis j'ai eu ces discussions-là avec deux personnes, entre autres, très, très profondes, jusqu'à très tard le soir dans l'autobus, puis qui dit « Michel, on n'a pas la même réalité, mais pas du tout. » Et là, j'ai arrêté de débattre, puis j'ai dit « OK, ça, c'est bon. Ça, c'est un autre coche, là. »
Très, très bon. D'abord, on apprend des choses là-dedans. Là. Mm. Le baseball majeur a changé.
Ouais.
Il parle qu'à un moment donné, chez les expos, c'était un livre ouvert.
Ah ben
ça veut dire que les joueurs, les lanceurs, ne se cachaient pas pour se doper.
Ah, pratiquement.
C'était répandu. C'est un peu ça qu'il nous dit.
Oh.
C'était comme ça. Et lui a toujours condamné ça, sauf avec l'exception.
Exact.
Ouais, c'est spécial.
Puis ça rentre dans sa mentalité où il n'est pas prêt à tout faire pour faire carrière dans le baseball majeur. Lui... Puis il n'est pas déçu de ne pas avoir fait les majeurs. Il dit que lui, il se console en disant « Je suis passé pas mal plus proche que ben du monde. »
Ben oui, oui.
D'ailleurs, pour lui, le sport, c'est juste un prétexte pour avoir du fun. Il n'est jamais en compétition avec les autres quand il fait du sport. Peu importe le sport, parce que Michel, il se débrouille. Il est très bon dans plein de sports. En fait, dans tous les sports. Il donne 5 minutes, puis il est bon. Il est en compétition avec lui-même. Il veut performer au maximum de ses capacités. Jamais, il me dit qu'il a joué pour l'argent, sauf une fois, en 1997, où il y a eu une offre pour aller jouer à Taïwan. Il a parlé tantôt de la Chine.
C'est
Taïwan.
Okay.
Et il y avait l'occasion de faire un petit peu d'argent pour payer ses dettes accumulées, parce que tu ne fais pas d'argent avant dans le baseball mineur. Là.
Ouais.
Et payer donc les dettes et les factures accumulées. Anecdote.
J'ai joué une fois pour l'argent dans ma vie. C'est quand je suis allé à Taïwan. Je faisais un bon montant d'argent. Et à un moment donné, je ne voulais plus être là parce qu'il y avait énormément de gambling. Il y avait 1,5 2 millions de gageurs sur les matchs.
Hey.
Puis la mafia était impliquée là-dedans. Puis.
As-tu été approché par des gamblers pour trafiquer des matchs? Es-tu allé jusque-là?
J'ai pas été approché, mais j'ai été accusé d'un match, entre autres. On avait. Quand je suis entré dans le match, on menait 11-2. On est en 9e manche. Et je pars en relève. Et j'ai donné 8 points.
Et on a gagné. Ça paraît pas bien.
J'ai donné 7 points. On a gagné 11-9 le match. Et moi, je suis déçu de ma performance. Mais je me dis, au moins, on a gagné le match. Puis je suis comme je suis comme content. Et les agents de sécurité m'ont ramassé avec le président de l'équipe. Ils m'ont emmené dans ma chambre. Puis ils ont dit, tu sors pas d'ici, on va mettre les agents de sécurité devant la porte. Puis je comprenais pas ce qui s'était passé. Puis ils ont dit, il y a un groupe qui a perdu 2,5 millions en dernière manche sur ce que t'as fait. Puis il va falloir qu'on sorte de l'équipe parce que ils ne prennent pas pantoute. Puis là, écoute, je comprenais rien. Puis finalement... ça s'est réglé, je sais pas de quelle façon. Écoutez, tout ça se passe en mandarin, là.
C'est comme ça que ton séjour, c'est terminé là-bas?
Non, on est rendu au mois d'août. Et suite à ça, j'ai dit, je pars, je m'en vais, c'est trop dangereux. Puis ils se sont excusés, ils sont venus me voir, ils ont regardé le tape du match pour voir qu'il y avait pas il y avait pas rien de mon côté. Il y a une belle fin dans le sens, on a gagné les séries, on a gagné le championnat, puis tout ça.
C'est une dimension du sport qu'on connaît pas beaucoup, ouais, en Amérique du Nord. Ouais. Le gambling, en Asie, oui, en Europe également. Il y a des matchs de soccer qui ont été truqués en Italie avec la mafia, tennis avec des Russes.
Des amendes.
Absolument. En Russie, en Europe, c'est quand les joueuses de tennis viennent jouer ici à Québec, au tournoi qu'on a de tennis, il y a des joueuses de partout dans le monde. Il y a des gens qui sont dans les estrades pour checker ça.
Ouais. Ou sous la galerie de presse, des fois, ils sont à côté de nous autres.
Regarde. Alors qu'ici, honnêtement, ils n'ont un peu, mais dans le hockey, dans le football, c'est comme légal, c'est permis. Fait que, tu sais, c'est moins un peu. Mais
c'est plus dur à arranger les sports d'équipe, de toute façon.
C'est spécial.
Après Taïwan, il revient en Amérique, il joue à Madison dans le Wisconsin, une équipe d'une ligue indépendante.
Oui.
C'est là qu'il rencontre Miles Wolf, qui est le propriétaire de l'équipe, mais aussi commissaire. Puis,
de la ligue, oui.
Puis il veut que Miles Wolf a comme projet de créer une équipe à Québec dans la ligue, je pense que c'était Northern dans le temps. Et il demande à Michel s'il veut donner un coup de main à Québec, parce qu'il savait que Michel était du Québec. Il savait pas qu'il était pas de Québec, mais bref, Michel vient à Québec, fonde des capitales, il joue, connaît une très bonne saison, à un point tel qu'il signe dans l'organisation des Expos. Et c'est au camp d'entraînement dans l'organisation des Expos en 99 qu'il se rend compte qu'il y a un avenir en dehors du terrain.
Où je me rends au camp d'entraînement des majeurs des Expos. Et ma tête n'est pas du tout sur le baseball. Écoute, je suis assis sur le banc. Puis au lieu de regarder les prises, les balles, puis les faiblesses ou les forces des frappeurs, je me dis, non, les panneaux, sa clôture sont pas bien placés. Le son est pas bon. L'animateur, elle rentre pas au bon moment. C'est tout de l'analyse marketing que je fais constamment et de l'analyse de gestion. Je me souviens, entre autres, à un moment donné... on est dans une pratique, puis on n'a plus de balles dans un panier de balles, on n'a pas de balles. Fait qu'on demande au coach, on dit, est-ce qu'on pourrait avoir des balles? Puis il dit, cette organisation-là est tellement pourrie, puis on ne sait même pas d'acheter des balles. Puis là, dans ma tête, ça a fait, il est donc un con, lui, il est en train de parler contre l'organisation qui le nourrit puis qui le paye. Fait que là, j'étais en analyse sur tout ce que les coachs faisaient, qu'ils disaient, puis je me disais, oh, Pelay, moi, si un jour, là, je suis gérant, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de silo, qu'entre chaque département, on est capable de créer un lien pour que chacun aille dans le même sens. Puis tout ça. Donc ça, c'est resté dans ma tête. Puis j'ai joué cette année-là à Ottawa, dans le 3 à Ottawa. Et encore une fois, il n'y avait pas la synergie qui aurait dû être souhaitée. Et quelques années plus tard, Marjo, je me dis, tu veux-tu devenir gérant des capitales de Québec? Je dis non. Veux-tu devenir gérant des capitales? Et à la quatrième fois, j'ai dit oui. Mais tu me donnes carte blanche. Et je le fais comme je veux. Puis il dit, c'est quoi ta carte blanche? J'ai dit, tu vas comprendre. Fait que là, j'ai eu la chance dans la vie de pouvoir tomber dans une équipe puis de dire toutes les idées que j'avais, puis la façon de faire, puis la façon de dire les choses, j'ai le droit de la faire à ma façon. T'imagines-tu, t'as jamais cette occasion-là dans la vie. T'as toujours un DG, un président qui dit non. Puis lui, il me dit, si c'est ça que ça prend, je te laisse tout ça.
Avec tout le succès qui s'en est en suivi, avec tous les championnats, absolument, avec les assistances,
ça a été payant.
Écoute, c'est tout efficace. Un buzz, là, les capitales à Québec.
Puis lui, dans sa tête, c'était on va faire les choses de telle sorte que les joueurs ne voudront plus partir d'ici. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Il y a une saison, je pense qu'il y a eu 29 joueurs seulement différents qui ont joué avec les capitales. Dans du baseball indépendant, c'est
un record
quasiment. Là, ouais. Évidemment, deux ans et demi après, ou à peu près, là, on est revenu sur l'accident d'hélicoptère.
Ben oui.
Pas le choix. Il dit du côté physique, ça va bien. Il peut faire toutes les activités qu'il veut, même si. Sauf que s'il ne bouge pas pendant quelque temps, là, il vient ankyloser un peu plus rapidement. Mais il s'est bien remis de sa commotion. Il y a un petit mini problème de vision à un œil. Évidemment, la perte de ses deux amis, Frédéric Descosses, le pilote, et Bob Bissonnette. Dans le cas de Bob, que tout le monde connaissait, ou à peu près, c'est un gars qui avait de l'énergie à revendre, toujours dans le tapis, plein de rêves. Tout son entourage puis ses proches sont passés. On réussit à transformer l'approche maudit que c'est de valeur en on s'inspire de lui puis on fonce jusqu'au bout de nos projets. Et ouais, puis on a eu la chance de le connaître plutôt que c'est de valeur qui soit parti. On a et il se fait souvent parler de l'accident. Évidemment, c'est un peu comme le but d'Alain Côté, ça c'est clair. Et la façon de voir des gens qu'il rencontre, c'est-à-dire que bon, il a été chanceux, c'est le destin qui t'a favorisé.
Oui, oui.
C'est pas mal différent que de sa façon à lui de voir les choses, de l'après-accident.
Mais il y a une affaire qui est une barrière pour moi, puis qui est complètement le contraire de ce que on me dit. C'est j'espère que tu profites de la vie. Et ben, je peux pas profiter de la vie. La vie m'a donné un break. Fait que je peux pas profiter d'elle, je peux juste lui redonner quelque chose. Donc ça, ce feeling-là de dire « J'espère que tu t'arrêtes, puis tu pars en vacances, puis tu réalises que ça, c'est tout à fait le contraire de ce que je vis. » J'ai l'impression que j'ai cogné à la porte, j'ai dit « S'il vous plaît, là, besoin d'un break, là. » Je l'ai eu. Fait que je reviens pas en ayant l'impression qu'il faut que je profite de la vie, je reviens en ayant l'impression qu'il faut que je redonne à la vie. Fait que ça, c'est un mode dans lequel que je suis. Mais je te raconte tout ça, puis c'est pas un mode poignant. C'est pas un mode lourd à supporter. Je suis juste bien là-dedans. Mais des fois, je vais m'arrêter, puis je vais regarder mes enfants grandir. Ça va prendre un petit deux secondes au volleyball, la petite fille qui joue, puis l'autre qui travaille avec moi, puis l'autre qui joue au hockey, puis je dis, hey, j'aurais manqué ça. Ouais. Ça, ça vient me chercher. C'est ça, ce volet-là, là, c'est comme, OK.
Ça a-tu un impact sur la famille? Parce que la famille est si serrée de ce que je connais.
Est-ce vraiment serrée? Ça a-tu un impact? Ils m'ont fait comme un beau compliment. Autant Francine, ma conjointe, que les enfants, ils ont dit ton système de valeurs avant que ça arrive, il était tellement solide que tu continues de vivre de la même façon. Donc, après qu'un événement de même arrive, que tu changes pas ta façon d'être, ça peut virer en un beau compliment de penser que tu vis encore de la même façon.
8h29. Peu de choses à ajouter. S'il y en a qui pensent que le sport, c'est encore juste un royaume de testostérone, puis de compétition, puis
de richesse,
de statistiques, puis des chiffres, puis des buts, puis des affaires, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plein d'histoires inspirantes humaines dans le monde du sport. Il y a plein d'affaires dont on peut se servir. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces
propos. C'est très inspirant, je trouve.
Oui. Absolument. Puis le sport, ça sert aussi à ça. Merci. Merci, Vez. Merci, Michel Laplante.
Oui.
Je pense que j'ai déjà hâte au prochain Prendre un verre avec. Merci à la gang de l'atelier qui nous reçoivent et qui nous permettent de sortir de nos studios, de s'installer confortablement, bien manger, bien boire, puis de jaser. On en a déjà quoi, là? 3-4 autres de canet. Je garde les surprises, je vous annonce rien. Si vous avez d'autres suggestions avec qui vous aimeriez prendre un verre avec, 25-226, textez-nous.